Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Et donc tous les jours, vous le savez, mon acolyte dans ce studio est là, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux écrans, mais surtout à l'impact bon ou mauvais qu'ils peuvent avoir sur nos enfants. À partir de quel âge justement est-il raisonnable de leur donner accès à la télévision, aux tablettes, aux jeux vidéo? Comment faire notamment lors de nos week-ends désormais confinés pour gérer les écrans. Et il faut le dire, hein, on risque d'être plus enfermés à l'intérieur qu'au printemps dernier. Donc les écrans nous sauvent parfois, parents, il faut le reconnaître. Alors, pour y voir plus clair, pour nous aider à fixer les bonnes règles, à reconnaître les signes qui montrent aussi que notre enfant est peut-être trop exposé, notre invité, ce sera le docteur Louis Vera. Il est pédopsychiatre à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. On s'intéressera aujourd'hui à un geste médical. Savez-vous ce qu'est la péridurale? Une forme d'anesthésie qu'on utilise souvent lors des accouchements, mais pas que. Le docteur Jimmy Mohamed nous dit à tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours aujourd'hui. Un sujet passionnant, elle nous expliquera ce qu'est vraiment le coup de foudre.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, aujourd'hui on va changer un peu et s'envoler vers les États-Unis. Toute l'antenne d'Europe 1 est mobilisée autour de l'élection du 46e président des États-Unis. Et alors nous, on va pas parler de politique, Jimmy, c'est pas trop notre spécialité. Hein? Non, enfin vous voulez peut-être, non?
Moi je peux parler de tout si vous voulez, politique, cuisine.
Cuisine, voilà. Vous êtes bon aussi. Ouais. Non, nous ce qu'on va faire, Jimmy, c'est qu'on va s'intéresser à la situation américaine vis-à-vis du Covid. D'abord, est-ce qu'on a des chiffres, Jimmy, sur leur épidémie, ils en sont où les Américains?
Oui, on a des chiffres plutôt vertigineux. Plus de 9 millions de cas depuis le début de l'épidémie, 230 000 morts. Et la seule chose, c'est que l'épidémie continue de progresser. Pour la seule journée du vendredi 30 octobre, on a enregistré un taux record de contamination avec près de 94 000 nouveaux cas, 1000 décès. Et le taux de positivité des tests continue de grimper. Donc pour eux, l'épidémie n'est clairement pas contrôlée. Et ils en sont quasiment à leur troisième vague.
Ah oui.
Un peu comme nous en Europe, mais sauf que ça ne s'est jamais vraiment arrêté chez eux.
D'accord, trois vagues quand même. Alors aux États-Unis, l'épidémie a peut-être été gérée différemment aussi en fonction des États. On sait que c'est très différent de chez nous. Mais il y a quand même eu des villes, des grandes villes même, comme nous, qui ont été confinées aussi, je crois.
Hein. Exactement. Et des villes qui ont été touchées très sévèrement, comme New York. Et puis la Floride était un peu plus calme à ce moment-là. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Et puis il y a quand même des villes ou des États où ça se passe pas très bien. Si on prend le Dakota du Sud ou l'Iowa, eh bien vous avez quasiment 50% des tests qui reviennent positifs.
La moitié, c'est incroyable. Donc, nous, on n'en est pas, même pas là, je crois.
Nous, on est à 20%, c'est déjà énorme. Et puis, avec une stratégie très particulière, c'est qu'ils ont considéré qu'il fallait fermer les écoles et laisser ouverts certains bars et restaurants.
Ah oui, c'est tout à fait différent de chez nous. Hein.
Et du coup, notre modèle, nous, français, est pris en exemple, alors qu'ici, on critique peut-être ou pas à juste titre, puisqu'on considère que la gestion américaine est catastrophique du Covid.
Alors justement, du côté de la gestion de cette crise, si on peut reprocher des choses à notre gouvernement, je crois que la gestion Trump aussi, on peut clairement la critiquer, non?
Oui, c'est celle effectivement des fake news et évidemment beaucoup de contre-vérités.
Il en a dit beaucoup de bêtises hein, quand même.
Exactement, que ce soit pour les traitements, pour l'utilité du port du masque et même sa responsabilité individuelle. Une étude à Oxford montre que les meetings de Donald Trump auraient entraîné près de 30 000 contaminations et un peu moins de 1000 décès directs, puisque dans ces meetings, le masque n'était pas forcément obligatoire. Parfois, il était enlevé. Donc, une responsabilité individuelle et collective de l'administration Trump dans ce qui se passe en ce moment.
Et puis, il a fini par l'attraper. D'ailleurs, on l'a tous vu. Il a été hospitalisé. Ça s'est bien terminé.
Avec un super cocktail qu'il a eu d'un traitement expérimental. Et puis, bon, voilà, c'est pas terrible non plus.
Voilà. Et malgré ce que le président Trump a affirmé pendant sa campagne, ils sont loin, d'après ce que vous venez de nous dire juste avant, d'en avoir fini.
Hein, ça,
il y a eu trois vagues, il y en aura peut-être quoi?
Exactement,
4,
surtout 5, que les 6. Contaminations continuent de progresser. Comme je disais, le taux de positivité de tests continue d'augmenter. Donc on aura de plus en plus de morts dans les 3-4 semaines qui suivent, même si chez nous aussi ça flambe.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va continuer cette séquence en revenant un peu chez nous. On va prendre le temps de répondre à une question d'auditeur qui nous a été envoyée par Régis. Il a 54 ans, il nous écrit la chose suivante. Bonjour, depuis que le président a annoncé qu'on était reconfiné, j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Je ne travaille plus car je suis cuistot dans un restaurant qui est fermé. Bref, je déprime, surtout qu'on n'a aucune perspective. Je dors aussi très mal car je suis très stressée même la nuit. Que me conseillez-vous? Devrais-je prendre des antidépresseurs, Jimmy?
Bah, pas forcément des antidépresseurs d'emblée, c'était un peu, fort, ouais, un peu fort. Il faut accepter que ce soit difficile pendant cette période. Il faut qu'on se dise qu'on a le droit d'aller mal. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de perte d'envie, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir envie de se lever le matin, de se doucher, de se préparer et si besoin, de se faire aider et accompagner par des spécialistes. Les médecins, les psychologues, les psychiatres sont disponibles pour vous aider à traverser cette période.
Y compris en visio. Hein,
exactement, la visioconférence marche très bien. Et éviter l'automédication. Et attention, c'est comme les anxiolytiques, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc on évite de consommer à tout va des médicaments pour vous détendre.
Et quand on est stressé, en plus, on sécrète une hormone, le cortisol, qui n'est pas terrible à plein de niveaux pour notre organisme.
Exactement, hein, en facilitation de stress, vous sécrétez de l'adrénaline pour soit vous battre, soit fuir. Et puis aussi le cortisol, sauf que sur le long terme, ce cortisol est néfaste. Il libère des toxines pour le cerveau, pour le cœur, pour l'immunité et même pour votre comportement. Donc ce stress continu prolongé peut être délétère pour notre corps.
Et alors, étonnant, qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit non, les antidépresseurs pour Régis, je suis sûr que ce n'est pas bon, je vais lui conseiller de la musique.
Et oui, ça paraît fou. Bah oui. L'écoute de la musique permet en quelque sorte de synchroniser le cerveau au rythme de la musique que vous allez entendre. Et des études montrent que ça pourrait être plus efficace que certains anxiolytiques. Donc écoutez de la musique,
laquelle
vous fait plaisir.
Ouais, j'allais vous dire, parce que Booba, comme vous, je ne suis pas sûr que ce soit hyper déstressant.
Et ben, alors c'est vrai que plus une musique a un tempo lent, plus le cerveau va se synchroniser. Mais la musique que vous aimez, votre playlist, pour avoir le même effet qu'un anxiolytique. On le voit notamment chez les chirurgiens dans le bloc opératoire qui écoutent de la musique. Et donc ça pourra vous déstresser. Et évidemment, si ça ne suffit pas, faites-vous accompagner. Les spécialistes sont là pour vous.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le pédopsychiatre Louis Vera qui vient nous aider aujourd'hui à mieux gérer les écrans avec nos enfants, mieux les gérer au quotidien, mais aussi lors de ces week-ends confinés. Plein de conseils très pratiques à suivre, donc je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en plateau avec nous aujourd'hui pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Louis Vera, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler des écrans et des enfants. On sait d'abord combien de temps, en moyenne, nos enfants sont sur les écrans. Alors, on a des chiffres américains, ça tombe bien, hein, c'est l'actualité aujourd'hui de parler des États-Unis. Aux États-Unis, on parle de plus de 7 heures par jour pour les 8-18 ans. Est-ce qu'en France, enfin, j'imagine que c'est quand même peut-être pas autant, non, enfin, je sais pas.
Alors, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient vraiment exacts. Ce que j'ai en tête, c'est pour les enfants, environ 2h, 2h30 d'écran par jour, ce qui paraît énorme.
Mais déjà,
ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain temps d'écran, les performances cognitives vont décroissantes. Donc 7 heures par jour, il me semble que c'est plutôt la limite au-delà de laquelle on a une très grande décroissance des performances des enfants.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'un enfant qui est exposé massivement aux écrans? Ça peut perturber, vous avez dit, ses acquisitions, c'est ça?
Alors en fait, l'enfant, avant 2 ans, a besoin de manipuler pour apprendre. Et tous les parents qui vont les mettre devant les écrans de télévision pendant les repas ou pour être tranquille dans la poussette se leurrent parce que l'enfant va être finalement scotché devant l'écran, très attiré, hein, quel que soit notre âge, on est attiré par les écrans, mais n'apprend rien. Parce que pour l'enfant de moins de 2 ans, ce qui se passe dans l'écran ne signifie rien, n'est pas réel. Et donc, effectivement, les enfants de jeune âge qui sont massivement exposés aux écrans vont avoir des capacités cognitives inférieures aux autres, des capacités en termes de lecture inférieures et un vocabulaire moins développé.
Sur les adolescents, docteur Vera, particulièrement, je crois que ça agit, vous m'avez dit ça en préparant l'émission, sur le système de la récompense. C'est quoi ce système dans notre cerveau?
Bien, c'est comme ça que les écrans vont nous happer, finalement. C'est parce que...
Nous rendre accro.
On peut comparer les écrans, surtout les jeux vidéo, les réseaux sociaux, à le bandit manchot, le fameux dans les casinos. Et en fait, au casino, vous avez votre bandit manchot que vous allez actionner. Et puis là, il va y avoir de l'attente mêlée à de la frustration. On espère toujours gagner le jackpot, on est frustré.
On le gagne pas souvent.
Mais on y retourne quand même. Et les écrans ont exactement le même effet.
Pourtant, dans des vidéos, on voit qu'il y a des contenus éducatifs. Certains parents nous disent, bah, écoutez, c'est des chansons en anglais, on pense que ça a des vertus. Mais vous dites que malgré tout, l'enfant n'apprend rien, il ne va pas tirer. On nous avait dit, vous allez voir, en 2020, c'est des nouvelles compétences, ils sont plus agiles avec leurs mains. Mais même ça, C'est contre-productif ?
Avant 2 ans, pas d'apprentissage. Après, entre 2 et 5 ans, les émissions éducatives sont à favoriser. En fait, il ne faut pas diaboliser les écrans. Hein. Les écrans, ça peut être très bien. Mais il faut que le parent soit là pour choisir le contenu. Et les émissions éducatives de 2 à 5 ans, c'est vraiment très bien.
On a étudié, je crois, à l'imagerie même, puisqu'on parle de l'impact sur le cerveau de cette surexposition aux écrans. On a mis des enfants très exposés comparés à d'autres dans des machines pour observer ce qui se passait dedans. Et je crois qu'on voit que même cérébralement, il y a des changements de structure cérébrale. Moins de matière blanche, alors on ne sait pas tout ce que ça veut dire exactement, mais ça change même physiquement du coup.
Alors, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau est toujours en train de se modifier. Et ce qui se passe, c'est que le cerveau va faire un choix dans les neurones qui sont les plus utilisés, les connexions les plus utilisées, au détriment des autres qu'il va éliminer. Et ça, pendant toute l'adolescence et à l'âge adulte, ça se poursuit. Et ce qu'on constate, c'est que cette élimination d'une partie de notre cortex se fait plus rapidement chez les enfants très exposés aux écrans. Et c'était pour des enfants exposés à 7 heures par jour.
Oui, massivement quand même. Jimmy ?
Est-ce qu'il est important malgré tout de laisser le goût de la lecture et des livres aux enfants puisque naturellement ils sont attirés vers les écrans et vont avoir tendance à délaisser les bouquins parce que forcément c'est moins sympa ?
Mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est comme ça que les enfants vont apprendre. C'est en mêlant différents types de stimulation. Quand on est derrière un écran, on a un seul type de stimulation qui, je le rappelle, en dessous de 2 ans, ne veut rien dire, ce n'est pas du réel. Et donc l'enfant a besoin de toucher, il a besoin de manipuler. Même les plus grands, 7-8 ans, moi je me souviens pendant le confinement, mon fils qui me disait « Non, le Kindle, j'aime pas, j'aimerais bien que tu me commandes des livres. » Il avait 8 ans pendant le dernier confinement, il me disait « Je veux pas le Kindle pour lire, je veux des livres, je veux pouvoir toucher le livre. » Et c'est vraiment important. Et puis une chose que ne permettent pas les écrans, quand on les laisse sans régulation, c'est de s'ennuyer. Et finalement, pour nous adultes, pour les enfants, pour les adolescents, c'est bien d'avoir des temps libres où on n'a rien à faire et où le cerveau va vagabonder.
Est-ce que justement, il peut y avoir un impact, on a vu donc il y avait un gros impact sur le cerveau, mais est-ce que du coup, il peut y avoir un impact psychologique et social aussi ?
Bien, le plus grand impact, c'est notamment chez les enfants, chez qui on ne va pas restreindre les écrans pendant les temps de repas et les temps d'échanges sociaux. Ces enfants-là n'apprennent pas tout ce qui est social skills, les habiletés sociales. Et les habiletés sociales, ça s'apprend en étant au contact de l'autre. Quand vous collez un enfant sur un écran pendant les temps de repas, il ne va pas apprendre à échanger avec l'autre et il ne va pas développer ses habiletés sociales. Donc c'est vraiment néfaste pour eux.
Et en plus de ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur le sommeil des enfants, justement, ces écrans ?
Alors, ce qui a été montré, c'est que si on n'éteint pas les écrans, là je parle surtout smartphone, tablette, ordinateur, 1 heure avant le coucher, ça a un impact fort sur le sommeil. Même si votre enfant dit être en forme le lendemain et va se concentrer en mathématiques, il aura pour autant pas forcément bien enregistré le cours de mathématiques de la veille, parce que beaucoup de processus de mémorisation se font pendant la nuit, et ça sera au détriment de sa compréhension du futur cours de mathématiques.
Ça veut dire qu'il va s'endormir plus tard aussi, ça va retarder. Il aura moins d'heures de sommeil aussi, peut-être tout court.
En fait, la lumière bleue diffusée par les écrans retarde le pic de la fameuse mélatonine, l'hormone du sommeil. L'endormissement est plus tardif. Et 1 heure de sommeil chez les enfants, ça ne compte pas pour des prunes, c'est vraiment essentiel.
Et ça, c'est vraiment spécifique aux enfants, ce que vous dites sur le lien entre surexposition aux écrans et sommeil, ou pour nous aussi, les adultes, finalement, c'est peut-être moins grave. Bon, à part qu'on risque peut-être le divorce, mais en tout cas, on dormira.
On dormira seul. Mais
il y a beaucoup d'études qui sont centrées sur les effets des écrans sur les enfants, et les médecins qui les ont menées regrettent de ne pas avoir étudié en même temps le comportement des adultes face aux écrans, parce que les adultes
moins de sommeil,
qui ont
moins de relations sexuelles, mais on dort.
Mais indépendamment de ça, les adultes qui vont mettre les écrans plus facilement entre les mains de leurs enfants sont eux aussi plus scotchés sur les écrans et interagissent moins avec les enfants. Alors chez les adultes, c'est pas tant la lumière bleue, c'est l'excitation liée à l'écran qui fait qu'ils vont s'endormir plus tard.
Docteur Vera, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer à vous parler de l'impact des écrans sur nos enfants, mais on va surtout passer à la pratique. Quelles règles établir à la maison, avec les plus jeunes, avec les ados ? Comment limiter sans diaboliser non plus, car les écrans peuvent aussi offrir des choses intéressantes aux plus jeunes. On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre plateau aujourd'hui. Notre invité, c'est vous, docteur Louis Vera. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous êtes également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Alors à présent, on va passer à la gestion au quotidien, docteur Vera, des écrans avec nos enfants. D'abord, vous l'avez un petit peu amorcé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un âge avant lequel vraiment il ne faut pas du tout d'écran.
Ce sur quoi s'accordent tous les spécialistes, c'est pas d'écran avant 18 à 24 mois. D'accord. Donc par sécurité, je dirais pas d'écran avant l'âge de 2 ans, avec une exception pendant le confinement et en dehors du confinement, c'est le FaceTime, la communication avec les autres, parce que là, l'enfant est en interaction avec quelqu'un et donc c'est moins nocif. Mmh.
Moi, je trouve que c'est très... Je ne vais pas dire que c'est laxiste, mais j'avais envie...
Je crois que les recommandations, c'est 3 ans officiel.
J'aurais même envie de pousser le curseur un peu plus loin, parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, on apprend de nouvelles choses et on se rend compte que, initialement, on nous avait dit, vous inquiétez pas, 1 an, ce n'est pas très grave, c'est les tablettes éducatives. Et puis, on recule petit à petit cet âge. Mais si jamais on les expose, je suppose qu'il y a une durée peut-être maximum d'exposition, je ne sais pas, 30 minutes par jour, 1 heure, comment on fixe le
curseur ? Je crois qu'il va dire encore moins que ça. À 3 ans, par exemple.
Je suis un peu sévère sur les écrans, il faut l'avouer. Entre 3 et 6 ans, on peut être un peu plus cool sur les écrans, mais il faut choisir le contenu. C'est ça le plus important. Et uniquement de l'éducatif. Et au mieux, on reste avec l'enfant exposé aux écrans. Et là, entre 3 et 6 ans, j'aurais tendance à dire pas plus de 30 minutes par jour.
Ah oui.
Sinon, ça se fait au détriment d'autres apprentissages et même de temps d'ennui. C'est bien les temps d'ennui. Ça permet de développer l'imagination et la créativité. Et c'est excellent pour les apprentissages plus tard et dans votre vie d'adulte épanouie.
Pas plus de 30 minutes, c'est quand même pas beaucoup, effectivement. Surtout quand soi-même, on laisse la télé allumée dans la maison toute la journée.
Oui, mais c'est une mauvaise chose.
Ah oui, bien sûr. Quelle durée maximum, ça, on vient de le voir. Mais est-ce qu'il y a un moment privilégié pour ces fameuses 30 minutes éventuelles? D'ailleurs, s'il n'y en a pas du tout, c'est pas grave non plus. Hein, si les enfants ne sont pas demandeurs. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, plutôt le matin, plutôt le midi, plutôt en rentrant de l'école le soir? Enfin, est-ce qu'il y a un moment plus adéquat, on va dire?
Pas le matin, parce que le matin,
Pas le matin, pas le soir, pas le midi, bon ben bah, jamais. En fait.
C'est un peu comme ça. Alors, le matin,
Alors, avant d'aller à l'école, c'est non, parce que
le matin, c'est un temps d'échange. Ouais. On doit s'asseoir pour prendre le petit déjeuner, même si on n'a pas le temps.
Moi, je dois prendre ma douche aussi, et
même si
je vous avoue que
le
dessin animé, c'est pratique.
Mais on s'assoit quand même 5 minutes avec l'enfant pour échanger. En rentrant de l'école, bon, les petits n'ont pas de devoirs à faire, donc ça ne les concerne pas.
Donc un petit dessin animé en rentrant de l'école, ça va encore.
Un petit dessin animé, d'accord, mais le mieux, c'est de les laisser rentrer de l'école et puis aller décharger un petit peu l'énergie parce qu'ils sont restés assis quand même en classe toute la journée en faisant autre chose. Et pourquoi pas les laisser aller vers des activités manuelles plus tôt. Après, pas plus de 30 minutes de dessin animé. Et à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 11 ans, j'ai tendance à dire pas d'écran en semaine. Même si, d'un point de vue scientifique, on considère que c'est pas nocif.
Chez les Gomez, c'est 1 heure par jour en semaine et 2 heures le week-end. Mais
bon,
c'est un peu trop.
C'est pas mauvais. Hein. J'aurais tendance
ils
à dire.
Ils seront pas géniales les mini Gomez, mais c'est pas mauvais.
Ils auront pas 19, ils auront 17.
Bon, ça va, ouf.
Mais en fait, il faut pas chez l'enfant de 6 à 11 ans que ça se fasse au détriment du temps d'apprentissage et encore au détriment de la lecture ou d'autres activités manuelles. Entre 6 et 11, on a encore tendance à aller jouer au Lego et à faire des activités manuelles. On y prend du plaisir. Et les écrans, ça nous appelle. Et donc, ça peut se faire au détriment de ces activités.
Pour les adolescents, c'est peut-être un peu différent. À partir de quel âge un enfant peut avoir un téléphone et comment est-ce qu'on le choisit?
Alors là, je distingue 2 périodes.
Là, attention, c'est le tyran Vera qui va parler. Je vous
préviens. Exactement. entre 11 et 15 ans, on va dire pour les collégiens, pas de smartphone. Attention, les smartphones, c'est
un piège. Il y a quelque chose d'autre qui existe,
On prend la vieille brique, le Nokia 8310, qu'on a tous fait tomber 50 fois.
Le 3310,
le 3310, c'est encore
celui
pire.
Celui de notre époque.
Bon, une brique, peu importe de la marque, une brique.
Une brique, qui a survécu à 156
jusqu'à
chocs.
Jusqu'à 16 ans, vous avez dit une brique?
Jusqu'au collège, jusqu'au lycée.
À l'entrée lycée, ça va être chaud quand même.
Parce que le problème, c'est que les gamins vont être happés par YouTube, par les jeux vidéo qu'on peut avoir sur ces téléphones-là. Et il y a un autre risque aussi, c'est la caméra. Malheureusement, beaucoup de collégiens, de collégiennes se font avoir, envoient des photos.
Et puis après, ça circule
dans toute la classe. Mmh. Et ça, c'est un gros
risque.
Ça,
vous envoyez dans vos consultations des enfants qui ont vécu ce genre de drame, hein, parce que ça peut être des drames.
Hein. Et oui, effectivement, il y a des enfants qui se font avoir, qui ont l'impression que c'est un ami qui va leur dire « Tiens, envoie-moi une photo de toi un peu dénudée.
Ah, comme t'es jolie, puis c'est tout, mais non.
Et puis, je t'aime beaucoup. » Et ensuite, ça circule sur tout le groupe WhatsApp de la classe. Ouais. Donc, en fait, le smartphone, il n'y a pas uniquement le pendant réseaux sociaux, YouTube, qui peut appeler et aller au détriment des devoirs. Il y a aussi une discussion qui doit s'engager avec l'enfant. Il doit être prêt à avoir un smartphone entre les mains.
Selon vous, ce n'est pas avant le lycée. Donc, la brique jusqu'au lycée. Et au lycée, on peut investir dans un smartphone. Alors.
Exactement.
Mais comment est-ce qu'on fait? Puisque moi, je suis d'accord avec vous. Il faut écouter le docteur Vera.
Chez le docteur Mohamed, ils auront un téléphone à partir de 25 ans.
Oui, mais comment est-ce qu'on fait aux 25 ans, s'ils sont sages.
Et qu'ils ont bien travaillé à l'école.
Mais comment est-ce qu'on fait si jamais notre enfant est le seul à être dans cette situation? Du coup, tout le monde a des réseaux sociaux, des YouTube, des TikTok, des Facebook.
Mon fils au collège, tous ses amis sont sur TikTok déjà.
Il va se sentir un peu exclu. Et comment expliquer les choses? Que on est nous dans le vrai et puis les autres...
On peut, chez le collégien, laisser un petit temps de réseaux sociaux, un temps contrôlé, en le faisant avec lui.
Alors, moi, j'ai installé TikTok sur mon téléphone et il n'y a accès que sur mon téléphone, un petit peu en fin de journée, pour voir ce que ses copains ont posté. Ça va, ça?
Mais attention, TikTok, c'est comme YouTube. Ouais. Le problème, c'est qu'on va aller de vidéo en vidéo en vidéo en vidéo. Il y a zéro contenu éducatif sur TikTok. Et le piège, c'est de se laisser aller à surfer comme sur Internet pendant un temps très long. C'est pour ça qu'il faut contrôler à ce moment-là. Et donc, je ne dis pas non aux réseaux sociaux pour les collégiens, mais il ne faut, faut pas trop libérer tout ça. Et il faut être derrière pour surveiller le temps. En tout cas,
on a parlé des portables, des téléphones portables. Les jeux vidéo aussi, ça fait partie. Enfin, c'est important pour beaucoup d'adolescents. Comment on gère les jeux vidéo et à partir de quel âge et combien de temps? Et peut-être c'est plus difficile avec les garçons, je ne sais pas si je me trompe, que les jeunes filles.
Alors, il faut limiter. Je disais, chez les primaires, pas d'écran en semaine, des écrans le week-end. Et chez les collégiens, c'est vrai qu'on ne peut pas limiter autant. Donc, la limite quand même maximale, ça semble être de 1h30 d'écran par jour en semaine. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, il y a des études qui montrent qu'on a un impact fort sur les résultats scolaires et l'impact sur les résultats scolaires va être corrélé au temps passé derrière les écrans.
Trop de Fortnite, moins de bonnes notes, quoi.
Trop de Fortnite, moins de bonnes notes. Fortnite, c'est très controversé parce que c'est un lieu où se retrouvent les adolescents. Mais le problème, c'est que tout est fait dans ce jeu pour rendre les adolescents accros.
Et vous connaissez ce jeu, Jimmy, non ?
Oui, mais j'essaie de lutter. Et j'ai d'ailleurs les jeux vidéo. J'ai un enfant de 7 ans, je lui interdis les jeux vidéo. Et parfois, j'avais cédé, lui laisser jouer quelques minutes à Super Mario ou Sonic. Et quelques temps après, je le trouve, mais c'est un démon. Il est surexcité et j'ai l'impression que ça le rend mais diabolique. Du coup,
il a raison, Jimmy, ça peut le rendre diabolique.
C'est diabolique. Pour lui. Non, mais c'est vrai, c'est un changement de comportement.
C'est juste votre fils.
C'est pas le jeu vidéo en lui-même, en fait, qui va rendre les enfants agressifs. Il y a eu plusieurs études qui montrent notamment que sur les jeux de tir, les enfants ne sont pas plus agressifs. Mais en fait, l'enfant n'a pas nos capacités d'autocontrôle. Et c'est ça, le plus important, le lobe frontal, qui est le siège de nos capacités d'autocontrôle, va se développer à partir de l'âge de 15 ans. Et avant, il n'y a pas ou peu d'autocontrôle possible. C'est pour ça que les enfants vont réclamer encore un peu. Encore un peu, c'est la phrase que connaissent les parents quand ils laissent les enfants devant les écrans. Et ils n'arrivent pas à s'arrêter d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des limites claires. Et effectivement, les jeux vidéo, en fait, ça demande beaucoup de concentration, donc ça fatigue. C'est pour ça que je dis en primaire, pas d'écran en semaine, parce que les enfants se fatiguent devant les écrans.
Il n'est pas diabolique, il est fatigué, votre petit Jimmy,
ça c'est
tout.
Vous êtes gentil.
Et quand on est fatigué, on est plus facilement diabolique. Mais si vous vous fatiguez devant les écrans, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur les devoirs après.
Docteur Vera, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Louis Vera. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et que vous êtes également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Alors, docteur Vera, on est confiné, enfin les week-ends en tout cas pour les enfants, on va en parler, mais le fait justement qu'ils continuent à aller à l'école, on va revenir sur les écrans juste après, est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs pour leur santé mentale et la nôtre aussi d'ailleurs, ça c'est sûr par contre. Enfin, j'ai même pas besoin que vous me répondiez, moi je le sais.
Alors, ce sera peut-être le prochain livre « Tous coachés derrière les écrans, tous foutus.
C'est ça.
Alors, c'est pas forcément mauvais d'être plus derrière les écrans pendant un temps de confinement, parce qu'il faut l'avouer, il faut quand même s'occuper. Et c'est pas évident pour les enfants. Le dernier confinement a été très dur
pour
eux.
C'est pour ça que vous disiez, l'école, cette fois-ci, c'est bien, c'est une bonne chose pour leur santé mentale.
Je trouve que c'est une bonne chose dans cette période de confinement de garder l'école ouverte. Et c'est le dernier lieu à fermer pendant le confinement et les prochains confinements, déconfinements qui s'annoncent.
Jimmy ?
Et du coup, est-ce que vous craignez pendant cette deuxième vague, justement, un retentissement sur la santé mentale des enfants qui ont déjà pu être impactés lors de la première ?
Alors, cette fois-ci, ça va être moins dur parce que les enfants gardent le contact avec les camarades de classe, le lien avec la maîtresse pour les petits, avec les enseignants pour les plus grands.
Il y a eu des dégâts la première fois, vous les avez constatés ?
Ça a été très difficile. Alors, les anxieux, au contraire de ce que beaucoup pensent, étaient super contents de rester à la maison. C'est des pantouflards, de toute façon, les anxieux. mais pour les autres, ça a été très dur de ne pas voir les copains et de perdre ce lien essentiel avec les habitudes, les routines. Et ça, ça manque beaucoup. Donc, effectivement, il ne faut pas développer des routines alternatives trop différentes pendant le confinement. Et là, on a une chance, c'est qu'ils continuent d'aller à l'école. Donc, j'aurais tendance à dire, le week-end où ça va être un peu plus dur, pourquoi pas un peu plus d'écran, contrôler.
Oui, c'est ça, c'est que du coup, il faut négocier. Le week-end, on est un peu plus souple et on fait quoi ? On fait les activités peut-être avec eux, on ne les laisse pas seuls ?
Alors, si Mélanie m'appelait un tyran, c'est justement pour une raison, c'est qu'on négocie pas avec moi.
Non, je vous appelle le tyran et le roi du deal quand même, parce que si vous aimez bien négocier, je crois.
Effectivement, je pense que tout ça, ça doit se dealer, mais sans laisser de discussion en face.
Vous savez, c'est le deal fermé, quoi. J'ai décidé que c'est comme ça, t'es d'accord, bien sûr.
Mais parce qu'à partir du moment où vous laissez la porte ouverte aux négociations, qu'est-ce que vous allez entendre ?
Vous ressemblez un peu tous les
encore
deux, en fait.
Encore un
peu. Je vous connais un peu mieux.
Si vous dites en face, OK, tu peux négocier, vous entendrez encore un peu régulièrement. Je pense que le meilleur deal, c'est dire, OK, il y aura un peu plus d'écran les week-ends pendant le confinement. Il n'y a pas de raison que ça change en semaine.
Il va pleuvoir, il va faire quand même bien plus mauvais qu'a priori au confinement premier.
Donc, on a de toute façon plus tendance à rester à la maison. Pourquoi pas un peu plus d'écran, mais partagé. Pourquoi les papas ne se mettraient pas à jouer à Mario Kart ? Moi, je joue à Mario Kart avec mon fils le week-end, on s'éclate. Et après, quand on dit on éteint, il n'y a aucun problème.
Vous avez peur de ça, Jimmy ? Vous n'osez pas vous commencer à vous mettre aux jeux vidéo avec votre
pendant
fils,
le confinement, si on accepte les jeux vidéo même à
c'est
deux,
c'est les mauvaises habitudes.
Mais le loup est dans la bergerie et donc on se dit au moment du déconfinement, on finira tôt ou tard, je l'espère, par retrouver une vie normale. Ils vont nous réclamer ces jeux vidéo à juste titre.
Vous n'êtes pas d'accord, docteur Vera ? Je crois que vous dites si c'est le deal, qu'il est fermé, il n'a pas le choix et puis c'est tout.
En fait, c'est vrai que si les enfants ne sont pas habitués aux écrans, qu'on les introduit pendant cette période spéciale, ça va être difficile après de leur dire il n'y a plus d'écran. C'est pour ça qu'il faut toujours que ce soit de manière contrôlée chez les plus jeunes. Chez les grands, par exemple, on va leur dire, par contre, ton écran à table, on n'en veut pas. Tant que tu n'as pas fait tes devoirs, on n'en veut pas. Chez le petit, ce n'est pas la même chose. Il faut partager le temps d'écran avec lui. Et quand on parlait de deal, justement, ce que j'avais proposé à mon fils pendant le confinement et j'ai reproposé là, c'est tu lis un livre par semaine, tu peux faire un petit peu plus d'écran le week-end.
C'est pas mal, ça, Jimmy, non ?
Et il le lit vraiment, le livre ? Parce que moi je les vois bien filouter et lire à toute
vitesse.
Moi, il m'a
dit « OK, mais il prend une BD, quoi. C'est vite lu. Hein. »
Ah, mais est-ce qu'une BD, c'est de la lecture ? Je pense que oui, on peut accepter.
De la lecture, mais ça ne sollicite pas autant...
Mais les quatre filles du docteur March...
ça ne sollicite pas autant les capacités d'attention, en fait.
Ah oui, ce n'est pas Les Misérables de Victor Hugo, mais bon, voilà, on peut...
Mais c'est en fonction de l'âge. Un livre par semaine pour faire un peu ou un peu plus d'écran le week-end, contrôlé par les
parents. Donc peu quand même.
D'accord, on négocie. Mais alors, il y a aussi des bonnes choses, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure sur les écrans. Alors sur les écrans, mais des choses qu'on peut écouter, nous on adore ça évidemment, on peut écouter la radio sur les écrans, mais on peut aussi écouter des podcasts, et ça c'est quelque chose que vous avez découvert justement vous avec votre fils, et que vous conseillez à vos patients depuis, c'est très intéressant selon
Pendant le confinement, effectivement, je dis toujours il ne faut pas diaboliser les écrans, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses grâce aux écrans, et une utilisation intelligente des écrans pendant la période de confinement, ça peut être d'écouter des podcasts. Il y a énormément de podcasts très intéressants.
On utilise l'écran comme un outil, mais finalement, on écoute après.
C'est
donc
ça.
C'est mieux.
On va télécharger les podcasts. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants. On éteint l'écran. On n'est pas scotché derrière.
Alors, c'est quoi les podcasts pour les enfants que vous conseillez ?
Il y a par exemple les Odyssées qui sont très intéressantes avec notamment la légende du monstre du Loch Ness.
Les
toute
Tintins
la mythologie
aussi,
grecque,
on avait parlé des Tintins.
Les histoires de Tintin. Et il y a beaucoup de podcasts finalement faits pour les enfants. Une autre application intéressante des écrans, c'est d'aller télécharger des images pixelisées. Donc sur Google, on tape Pixel et les enfants vont les imprimer et ensuite les reproduire sur des feuilles à petits carreaux avec des crayons de couleur.
C'est des petits carrés à colorier qui donnent des gros dessins à la fin. C'est un peu comme nos, nous, on fait des mandalas pour se détendre ou des choses comme ça, les coloriages zen.
C'est un équivalent de mandala. C'est vraiment un équivalent de mandala qui est déstresse et qui apprend à se concentrer.
Et vous dites aussi qu'on pourrait les apprendre à coder, que ça pourrait être intéressant pour les enfants, mais le codage, ça m'a l'air quelque chose
dans la famille des surdoués, peut-être.
Oui, c'est ça, oui, mais dans la famille des Gomez, à mon avis, c'est un peu plus difficile.
C'est pas gentil, ça.
Alors, on peut apprendre à coder à tout âge en utilisant les bons outils. C'est-à-dire que les élèves de primaire peuvent apprendre à coder en utilisant Scratch. Les élèves de collège et de lycée peuvent apprendre à coder avec des outils, des langages un peu plus développés. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous apprenez à coder à votre enfant sur Scratch, en fait, ce sont des blocs de logique à assembler. Ce n'est pas un langage à apprendre. Ça va développer sa logique. Et donc, ça va l'aider pour toutes les matières scientifiques.
Ah, en codant, il va être meilleur en maths, quoi.
Effectivement, si on l'apprend.
Ça serait bon, ça, pour les enfants, Mohamed.
Oui, ce serait pas mal. Mais c'est encore mieux pour les vôtres. Ne commencez pas cette surenchère, Madame Gomez, vous allez vite le regretter.
De toute façon, c'est un bon conseil, ça. Ils finiront tous dans mon cabinet.
C'est ça. Donc, vous disiez, donc, jouer en famille aux jeux vidéo, ça peut être une solution. Mais du coup, il faudrait que toute la famille s'y mette. Il y a des jeux là où on fait même du sport en jeux vidéo. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, on bouge. Et on joue, et ensemble, c'est comme un jeu de société, finalement, sur un écran, quoi.
Oui, là, vous me faites penser, par exemple, pour ceux qui ont la Switch, à Ring Fit, où c'est vraiment un entraînement. Hein,
en plus, ils vont être fatigués, sportif, ça, c'est bien, moi, j'aime bien.
Ça les fatigue un petit peu, les parents sont contents, plutôt que de les scotcher comme des zombies derrière un dessin animé. Pour ceux qui ont des PlayStation et Xbox, on a aussi une caméra qui permet de faire différentes activités sportives. Donc, il n'y a pas que de mauvaises, entre guillemets, applications.
Et peut-être que pour finir, il faut que nous aussi, les adultes, on montre l'exemple et qu'on soit peut-être un peu moins scotchés aux écrans, aux séries et même à notre téléphone portable pour que l'enfant se dise, bah oui, c'est ça le comportement.
Je crois
normal.
Que vous va dire qu'on s'en fout, nous, les adultes.
D'accord. Mais ça me va très bien.
Eh bien non, parce que
moi, mon fils, il me dit souvent, ah, tu veux pas que j'ai mon téléphone, mais toi, tu l'as dans ta chambre, tu regardes des séries.
Alors, lorsque l'on fait des études, en fait, sur les enfants et qu'on les interroge par rapport à leur utilisation d'écran, ce qui revient le plus souvent, c'est, mais de toute façon, papa et maman, ils sont scotchés sur leurs écrans aussi. Ouais. Alors, il y a une différence quand même entre enfants et adultes, c'est que le cerveau de l'adulte est déjà très nettement développé, alors que le cerveau de l'enfant est en développement.
Et voilà, tu lui dis, moi, il est fini, mon cerveau.
Ah oui, il est fini, il est terminé. Je crois que là, on ne peut plus rien pour moi, ni pour vous, Madame Gomez.
Très bien. Bon, merci beaucoup, Docteur Vera, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour vos conseils. Je ne suis pas sûre qu'on les appliquera tous, mais c'est
toujours
utile.
Parlez pour vous. Non, monsieur, c'est, moi, je vais les appliquer. Après, il faut écouter Docteur Vera.
Mais bon, on a des repères grâce à vous, en tout cas. Merci, Docteur.
Merci à vous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la péridurale. Savez-vous précisément comment se déroule ce type d'anesthésie? Pour quelle autre indication que l'accouchement d'ailleurs s'est utilisé? Y a-t-il des risques? Eh bien, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Alors pour moi, c'est juste une grosse piqûre qui fait très mal.
La piqûre qu'on fait avant un accouchement, un truc dans le genre, ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
Enfin, c'est pas une ponction lombaire, mais au niveau des lombaires, il doit y avoir une injection d'un produit ou quelque chose qui se propage ensuite dans le corps.
Et qui permet de soulager la douleur lors des contractions et du coup lors de l'accouchement.
C'est une grosse aiguille qui peut faire un peu peur d'ailleurs, je crois.
Diminuer les douleurs au niveau des contractions, peut-être agir sur l'utérus ou quelque chose comme ça.
C'est pas automatiquement, par exemple, ma mère n'a pas eu de péridurale parce qu'elle l'a refusée, elle la voulait pas. Elle voulait accoucher de manière naturelle.
C'est plus favorable quand même de subir une petite piqûre plutôt que d'avoir très mal pendant l'accouchement.
J'ai cru comprendre que c'était risqué pour des femmes qui pouvaient avoir des problèmes de dos, comme une scoliose aggravée, celles qui ont un tatouage.
Après, il doit y avoir des risques d'infection potentiellement, il doit y avoir des risques allergènes.
Je crois qu'il y a un risque, si c'est mal fait, d'un certain handicap ou quelque chose comme ça, enfin, c'est parce que c'est dans la moelle osseuse.
Bon, Jimmy, on va reprendre du début. Il y a des bonnes choses et des choses un peu moins justes dans ce micro-trottoir. D'abord, c'est quoi une péridurale? On se fait piquer où? Comment ça se passe?
Alors, la péridurale, c'est une technique d'anesthésie loco-régionale. Donc, c'est pour endormir une partie du corps et on va
piquer. On est conscient, donc. Hein, c'est
tout
ça,
en étant
ouais,
conscient, ouais. Ça évite une anesthésie générale. Et on pique entre la troisième et la quatrième vertèbre. On va induire une...
C'est le bas du dos, hein, troisième, quatrième vertèbre.
Exactement, c'est le bas du dos. Et on va mettre une petite aiguille. Alors, l'aiguille, elle est très longue lorsque vous la regardez.
Oui, Moi, je l'ai vu, elle fait très peur quand même.
Mais on ne rentre pas toute l'aiguille, c'est simplement 2 à 3 cm qui pénètrent. La seule chose, c'est qu'elle est longue pour permettre à l'anesthésiste de mieux guider son geste.
C'est pour ça qu'elle est si grosse, je me suis toujours demandé.
Et ce que vous allez voir, c'est que vous avez un gros trocard, donc c'est un truc qui paraît immense, sauf qu'au bout duquel, vous avez un petit fil qui va rentrer. C'est un peu comme lorsque vous prenez un stylo, vous avez l'enveloppe en plastique et puis vous avez l'encre.
Ah,
et c'est simplement
c'est bonne image,
le petit truc là que vous allez mettre dans le dos et on retire le gros morceau en plastique. Et donc, c'est pas si douloureux que ça. Et surtout, ça permet d'éviter d'avoir des douleurs pendant l'accouchement tout en sentant et avoir des sensations. Le but n'est pas d'anesthésier complètement, puisque lorsqu'il y a des contractions, lorsque la femme doit souffler et pousser, il faut qu'elle soit consciente, puisque l'accouchement est beaucoup plus long lorsqu'on a une péridurale. Quand on n'en a pas, eh bien on guide mieux les contractions.
Aux femmes de faire leur choix, de toute
Exactement,
façon. C'est absolument pas obligatoire. Quel type de produit on nous injecte d'ailleurs? Enfin, c'est un anesthésique, j'imagine.
C'est un produit anesthésiant, exactement. Il y en a deux types, ça dépend des anesthésistes, de leurs habitudes. Parfois, il y a un petit cocktail qui est mélangé.
D'accord.
Et donc, c'est un produit qui sert à anesthésier tout simplement la zone.
Alors, on connaît tous la péridurale pour accoucher, on vient d'en parler un petit peu, Jimmy, mais je crois que c'est pas utilisé que pour ça. Il y a d'autres indications pour avoir à faire une péridurale?
Oui, toute chirurgie des membres inférieur en chirurgie orthopédique peut être utilisé avec cette technique-là. On n'est pas obligé d'utiliser une anesthésie générale. Si jamais vous avez aussi, par exemple, des varices qui doivent être opérées, eh bien, on peut vous faire justement cette péridurale. Et puis, on peut faire exactement la même chose. C'est un peu moins fréquent s'il y a besoin d'une intervention au niveau de votre vessie. Mmh. Et donc, c'est une technique chirurgicale qui n'est pas propre à l'accouchement.
En gros, du ventre
jusqu'en bas, jusqu'au niveau des jambes, jusqu'au bout des orteils. Ça permet, dans ces cas-là, si jamais vous avez une cheville opérée, un genou, une hanche, un peu moins, de faire des gestes. La seule chose, c'est que c'est pas très agréable de savoir tout ce qui se passe au bloc opératoire quand vous entendez.
Oui, bien sûr, il y a le côté
marteau,
psychologique aussi, hein, évidemment. Angoissant. Est-ce qu'il peut y avoir des complications? À une époque, on entendait, je dis à une époque, hein, il y a peut-être 30 ans, on entendait beaucoup, oh là là, avec la péridurale, les femmes risquent de rester handicapées, d'avoir les jambes qui ne fonctionnent plus. C'est possible, ça?
Non, puisqu'on ne va pas toucher la moelle, on ne va pas si loin. Il y a un risque théorique, évidemment, si on se trompe.
C'est toute anesthésie, il y a un risque, évidemment. Hein,
le risque principal, il est plutôt lié déjà à l'échec de la péridurale. Parfois, on peut avoir du mal à la poser. Parfois, il y a avoir une latéralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mieux endormir un côté et moins bien l'autre. Et donc, la femme peut sentir du côté droit de l'utérus qu'il se passe encore quelque chose, qu'elle a mal. Et dans ces cas-là, on va déplacer la patiente, remettre du produit. Et puis, le risque majeur pendant la péridurale, c'est la baisse de tension artérielle. Et donc, à ce moment-là, on doit contrôler.
Faire un malaise. Hein,
et de faire un malaise. Donc, c'est le risque principal. Mais souvent, les femmes pensent à la paralysie. Sauf que
c'est
ça, finalement,
ce
c'est voilà. Et parfois, il y a des petits maux de tête et des nausées qui peuvent s'accompagner après la pause.
Je ne sais pas si c'est. Il me semble qu'il y a des femmes aujourd'hui, qu'une fois qu'elle est posée, cette péridurale, lors de l'accouchement notamment, qui peuvent se la doser toute seule, c'est-à-dire se rajouter un petit shoot de produit.
Exactement,
pour être
une pompe comme pour la morphine, c'est lorsqu'on a une intervention chirurgicale. Ce n'est pas systématique encore, ça dépend des centres. Certains le proposent, d'autres non. Et dans ces cas-là, c'est la sage-femme qui rajoute des petits bolus, des petites doses pour permettre à l'accouchement de se passer dans de bonnes conditions.
Ça dure combien de temps l'effet de cette péridurale en général?
Quelques heures simplement, ça varie aussi de la durée de
la
péridurale.
Si l'accouchement est plus long,
longtemps. Mais en règle générale, au bout de quelques heures, le produit est éliminé et on peut se relever, puisque le plus important après un accouchement,
c'est le lever.
On peut
remarcher au bout de combien de temps?
Au bout de quelques heures, le lever précoce. Plus tôt on se lève, mieux c'est, pour éviter les complications avec les maladies thromboemboliques,
le risque de faire une phlébite par exemple,
ou l'embolie pulmonaire. Donc le lever doit être le plus précoce possible.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, on a décidé de parler du coup de foudre. C'est un grand sujet. Hein. Alors je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour tout raconter, mais ce n'est pas grave, on peut y revenir sur le coup de foudre, justement. Alors Catherine, d'abord, on appelle ça le coup de foudre. On imagine le coup de tonnerre. D'où ça vient d'ailleurs l'expression coup de foudre?
C'est être foudroyé. Foudroyé, c'est-à-dire tout d'un coup de perdre physiquement. C'est-à-dire que les gens qui vivent le coup de foudre, alors d'abord, ne nous inquiétons pas si nous ne le vivons pas.
Je ne suis pas sûre d'en avoir vécu. Je suis en train de chercher là dans ma tête.
Voilà,
coup de foudre,
et ceux qui en ont vécu ne sont pas nécessairement en train de vivre avec cela. Donc on y reviendra. Mais en tout cas, ceux qui l'ont vécu, il y a tout d'un coup quelque chose qui est physiquement perceptible dans une perte de repères corporels, tout d'un coup, d'un cœur qui s'emballe, de jambes qui s'agitent.
Ah ça oui, ça j'ai eu ça. Mais c'est pas forcément.
Oui, mais coup de foudre dans le sens où tout d'un coup, la vision de l'autre est une évidence qui vous assomme en quelque
sorte.
Comme
si c'était auréolé d'une lumière, c'est lui.
Oui, mais qui vous assomme, c'est-à-dire que c'est pas simplement je le vois comme quelqu'un de merveilleux, c'est physiquement je suis foudroyé par cette rencontre. Et donc, évidemment, que c'est le coup de foudre. Mais le coup de foudre, ça veut dire qu'il y a un début et une fin.
Vous avez connu ça, Jimmy ?
Non, parce que d'ailleurs, non, mais le coup de foudre, comme être frappé par la foudre, ouais. c'est rare, ouais. c'est douloureux et ça ne dure pas longtemps. Est-ce que ça peut aussi se coller à la définition du coup de foudre sentimental ?
Absolument.
Quelque chose de fugace, mais finalement pas forcément bénéfique, parce que quand on dit coup de foudre, on a l'impression que ça va être génial, alors que
Moi, ça fait peur un peu, je trouve.
D'abord, il n'est pas nécessairement réciproque, déjà, d'une part.
Oui. Ça, c'est embêtant.
Ça, c'est la
c'est encore plus douloureux.
Ça, c'est pour votre douleur.
C'est vrai, si vous...
Là, ça fait deux fois plus mal.
C'est vrai. Votre coup de foudre sur Brad Pitt, malheureusement, il est dans un seul sens, Mélanie.
C'est
donc,
ça. Ah bon, c'est pas vrai. Non.
Donc voilà, déjà, il n'est pas nécessairement partagé, puisque c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement soudain. Ça peut être simplement à la vue tout d'un coup de quelqu'un, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui tout d'un coup existe de façon majeure.
Mais il ne vous voit pas.
Lui, il ne vous voit pas. Et donc vous pouvez sauter dans tous les sens, etc. Il ne vous voit absolument pas parce que ça se passe seulement en vous. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui se produit là ? Pourquoi tout d'un coup un être est passé de l'ombre à la lumière absolue.
C'est quoi ? C'est l'odeur ? Comment c'est possible ?
Alors, on n'a pas fait la preuve des phéromones chez les humains, donc on ne va pas se lancer là-dedans. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Comme si tout d'un coup, l'autre incarnait quelque chose d'évident pour soi. Alors, à quel rendez-vous de vous-même êtes-vous pour que l'autre soit à ce rendez-vous, pour que vous puissiez projeter sur l'autre qu'il soit à ce rendez-vous ? Mais tout d'un coup, il est votre évidence absolue et votre urgence absolue.
Mais du coup, si cette évidence est réciproque, un coup de foudre, c'est rare. Qu'il soit réciproque et que nous ayons deux coups de foudre,
encore plus rare.
Donc ça veut dire que c'est peut-être la bonne personne, le destin ou le karma, je ne sais pas comment on va appeler ça, a peut-être mis sur la route deux personnes qui vont rester le reste de leur vie ensemble. Ça arrive, des coups de foudre qui marchent, qui durent sur le temps.
Alors, je n'ai pas interrogé tous les gens, je dois avouer, tous les gens qui ont eu des coups de foudre réciproques en plus. Le fait est qu'en général, j'ai des tas de patients qui vont me parler d'histoires où il y a eu un coup de foudre. Ce ne sont pas nécessairement les personnes avec lesquelles ils vivent, parce que justement, ils vivent cette espèce d'urgence.
Et ça ne dure pas forcément en plus, cette espèce d'état de grâce et de douleur là, que vous avez décrit.
Oui,
ça peut être très fugace.
Pas. Très fugace, ça peut être d'ailleurs consommé de façon tout aussi rapide et puis sortie de l'évidence, eh bien, ça devient un terrien. Je dirais même que ce qui est compliqué, c'est que plus quelqu'un est au-dessus de la masse, plus c'est difficile de poursuivre la relation.
Avec cette
Parce que par définition, il va naturellement atterrir dans le monde des hommes et des humains et des gens normaux qui vivent sur le plancher des vaches. Et du coup, ce décalage entre l'émerveillement et le plancher des vaches est plus douloureux que quelqu'un avec lequel nous cheminons tranquillement.
Ah oui, finalement, on est vite rattrapé par la réalité, le coup de foudre irrationnel. Et puis quand on laisse traîner les chaussettes, qu'on ne relève pas la cuvette des toilettes, qu'on se brosse pas les dents, ce coup de foudre.
C'est ça. Alors maintenant, Jimmy, si vous avez préféré laisser d'abord les chaussettes et finalement être considéré comme étant tellement touchant avec vos chaussettes, et bien évidemment, ça, c'est un bon argument. Ça dure plus longtemps, en effet.
Donc Jimmy, apparemment, il n'a pas connu le coup de foudre. Alors ça a duré très peu de temps.
On n'a pas besoin de ça, d'ailleurs. On peut aussi tomber amoureux sur le temps, si ça prend du temps. C'est pas très grave.
Et de toute façon, une relation mérite d'être entretenue, d'être cultivée. Donc de toute façon, même la rencontre doit être cultivée. Ce n'est pas tout d'un coup. Il faut planter des graines.
Coups de foudre comme ça, après, ça se transforme en autre chose. Ça reste pas ce truc passionnel, foudroyant pendant des années. C'est pas possible.
Pour que ça fonctionne, il faut que justement, on accepte d'atterrir, on accepte de se regarder avec tendresse et être porté par cet élan de départ merveilleux, mais qui va devenir tout autre chose. Et c'est qu'à cette condition qu'il servira à quelque chose comme un starter, uniquement un starter.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions, ces conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Mathieu Noël et Stéphane Bern avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre, ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Une spéciale Amérique évidemment, mais l'Amérique de qui ? Comme on ne le sait pas, on va vous entraîner dans l'Amérique de Lucky Luke avec le dessinateur Jules.
Bien sûr, à l'occasion de la sortie d'un cow-boy dans le coton. On va parler des vrais frères Dalton. Ils ont vraiment existé, même s'ils n'ont pas eu le parcours de ceux de la BD. Bass Reeves, le héros de la BD de Jules et d'HD. Et puis, voilà. Et vous allez parler de qui, Mathieu ?
Le cow-boy par excellence, Stéphane. Clint Eastwood, évidemment.
Ah oui.
Merci messieurs, une histoire de cow-boy, on adore ça. On va vous écouter évidemment avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi surtout, c'est un bon conseil pour cette fin d'après-midi. Restez sur Europe 1.